sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Comme il est de tradition, après la séance solennelle de rentrée des 5 académies toutes ensemble, qui a eu lieu le mardi 26 octobre 2010, c'est l'Académie des sciences morales et politiques qui effectue la première, sa rentrée. Celle-ci s'est tenue sous la coupole de l'Institut de France le lundi 15 novembre 2010. Le président de l'année, Jean Ménard, ayant choisi pour thème de réflexion pour les séances hebdomadaires du lundi « La démocratie », adresser le bilan de ces séances, vous l'entendrez en premier. L'Académie des sciences morales et politiques attribue chaque année plus de 50 prix et médailles. Vous entendrez donc en deuxième intervenant le vice-président Jean Béchler qui donne lecture de ce palmarès. Enfin, le secrétaire perpétuel Michel Albert a rappelé dans son discours l'histoire du couple franco-allemand et évoqué quelques moments clés. Entrez sous la coupole avec l'Académie des sciences morales et politiques.
La séance est ouverte. Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, monsieur le représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air, monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, messieurs les recteurs d'académie, messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier de l'Institut, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Le temps des immortels est un temps cyclique, et les événements qui le scandent sont des rites. C'est ainsi que chaque année, vers la mi-novembre, nous vous accueillons en ce lieu prestigieux pour la séance solennelle de rentrée de notre académie. Mais l'immortalité qui caractérise nos compagnies ne touche pas ses membres. Aussi, sous leur identité dans le temps, peut-on voir l'image du changement. Comme les autres présidents avant moi, je vous demanderai donc de vous souvenir avec moi de ceux qui nous ont quittés cette année, membres ou correspondants, Jacques Dupaquier et Maurice Allais, ainsi que le père Pierre Blé et Christophe Skubiczewski. Mais il me revient également d'accueillir ceux qui nous ont rejoints, messieurs Rémi Brague, Pierre Delvolvé et Jean-Claude Trichet, élus membres titulaires, ainsi que messieurs Denis Maraval, Philippe Devaute, Jean-Louis Crémieux-Briac et Pierre Ganager, élus correspondants. Eh bien, ma tâche m'impose maintenant de présenter une synthèse des travaux de l'Académie, ou du moins de son travail central, au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et je ferai donc une synthèse des communications que nous avons entendues à l'Académie des sciences morales et politiques, sur le thème de la démocratie. Le mot « démocratie », comme ses dérivés « démocrate » et « démocratique », est de ceux dont on peut relever l'emploi le plus fréquent dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Combien de livres publiés dans l'année dont le titre les enferme ? Que d'articles de presse ou de revues ? Que d'occurrences dans la conversation la plus savante ou la plus banale. Cette inflation, comme il est d'usage, ne signifie nullement recherche de pertinence ou de précision. Que le mot puisse devenir concept, appelant une définition rigoureuse et fine, et susceptible d'entrer dans un discours politique offrant un caractère de science, comme nous autres académiciens en faisons profession, voilà ce que la masse des propos que nous entendons sur le sujet laisserait rarement soupçonner. Voilà aussi un objectif capital et qui engage une réflexion complexe, dépassant nécessairement les limites que pourrait atteindre un simple article de dictionnaire. Mais les difficultés à surmonter ne tiennent pas seulement au sens des mots et aux obstacles que l'on rencontre pour les mettre parfaitement en correspondance avec les choses. Elles dérivent aussi de tout ce que les mots transportent au-delà et en dépit de leur sens, qu'il s'agisse d'idées préconçues ou toutes faites, de conditionnements politiques ou sociaux, voire économiques, d'attraits ou de répulsions largement irrationnelles. Ils sont même employés comme armes. C'est en faire une arme défensive que de revendiquer le nom de démocratie pour désigner des régimes notoirement oppressifs, au risque d'autoriser une transposition moderne et politique de la maxime de La Rochefoucauld, définissant l'hypocrisie comme un hommage que le vice rend à la vertu. C'est à l'inverse en faire une arme offensive que de justifier par le service de la démocratie des entreprises à visée largement impérialiste, recourant à des moyens fort peu compatibles avec la fin censée poursuivie et susceptibles de mettre en cause la valeur même de cette fin. C'est donc dans un immense réseau d'imprécisions, d'ambiguïtés, souvent de faux-semblants et de mensonges, que l'Académie a été invitée à s'aventurer. Mais il s'agissait là d'une tâche dont l'importance me semblait répondre à la mission essentielle de l'institution académique, qui est d'éclairer les services publics sur les tenants et aboutissants des décisions qu'il leur incombe de prendre. Elle conduisait en effet à s'interroger sur la nature d'une vraie démocratie, sur les ressources que son statut lui offre et sur les faiblesses qui peuvent la guetter, sur les perfectionnements et les adaptations dont elle est susceptible. Pour permettre à l'Académie de jouer pleinement le rôle attendu d'elle, il m'a semblé nécessaire d'établir une connexion étroite entre ma fonction de président responsable du programme d'année et le corps entier de l'Académie, ce qui a été rendu possible par des conversations et des échanges réalisés au hasard des rencontres avec les uns et les autres et par le très efficace travail du bureau. Le choix du sujet d'année, à partir de plusieurs propositions différentes que j'avais avancées, a été ainsi véritablement collectif. J'ai tenu aussi à ce que nos confrères prennent en charge, dans une proportion substantielle, environ la moitié, les communications données dans nos séances hebdomadaires. Je ne saurais trop leur exprimer ma reconnaissance pour leur précieux concours, auquel s'ajoute, non moins appréciable, celui qu'ils ont apporté par les nombreuses questions formulées à la suite des exposés. Les remerciements ne sont pas moins vifs à l'égard de tous les auteurs qui ont accepté nos invitations à venir prendre la parole devant nous et à nous apporter le secours de leurs expériences et de leurs travaux. À partir de quoi chacun de nous a pu conduire sa propre réflexion jusqu'à un terme personnel, ce dont je ne me suis pas privé pour mon compte et qui m'autorisera, je l'espère, dans cette synthèse finale, à profiter des suggestions reçues, éventuellement prolongées, pour déborder parfois les résultats auxquels l'apport de nos séances semblait devoir nous arrêter. L'impression la plus profonde que j'éprouve au terme de cette année est assez différente de celle que je ressentais en commençant. J'avais alors le sentiment que les armes du bon raisonnement et de la justesse d'esprit nous garantiraient contre tous les risques d'errements et de falsifications auxquels notre sujet très passionnel nous exposait. Nul doute que nous n'ayons posé d'excellents jalons pour éviter certains pièges et par la même occasion, au-delà de notre propos immédiat, correctement esquisser les règles d'un bon gouvernement, quel que soit son statut politique. Mais ce qui me frappe le plus aujourd'hui est l'extrême complexité de notre sujet, la difficulté de concevoir et de maîtriser les rouages d'un système méritant le nom de démocratie et réalisant à la fois la stabilité de l'État, la paix intérieure et extérieure et le plus grand bonheur des citoyens. Il y a de grandes chances pour que les moyens et la fin ne se perturbent réciproquement. Ainsi, la règle du conflit, comme l'a suggéré Jean Béchler dans son propos introductif, serait-elle immanente à toute démocratie, au moins tant qu'elle n'aura pas reçu le couronnement d'une armature de loi et d'un État de droit. Mais peut-être notre analyse doit-elle partir de plus haut. Il y aurait plusieurs moyens de le faire. Le premier serait de conduire une enquête résolument historique et de suivre au cours des siècles la naissance et les vicissitudes d'une forme de gouvernement illustrée par la théorie comme par la pratique, tendant vers ce que nous appelons démocratie. J'ai écarté d'emblée cette perspective pour me conformer aux vœux exprimés par plusieurs d'entre vous, et en reconnaissant d'ailleurs que l'enquête strictement politique qu'ils attendaient principalement s'accommoderait mal d'un chapitre historique trop étendu. Les références à l'histoire ne devaient donc avoir qu'un caractère occasionnel et ponctuel. Cette décision a commandé l'organisation d'ensemble de l'année. Sur ce point, je n'ai pas eu à modifier le plan que j'avais annoncé lors de notre première séance. Il y a lieu cependant de rappeler que l'ordre des communications au cours de l'année, soumis essentiellement aux commodités des orateurs, a bousculé ce plan initial. Ma présente synthèse reviendra sur ce plan et ne tiendra pas compte des modifications qu'il a reçues entre-temps. Je reprendrai donc, pour l'organisation de mon propos d'aujourd'hui, la distinction que j'ai proposée en commençant entre trois grandes séquences susceptibles de permettre une distribution progressive de la lumière fournie par les communications que nous avons entendues, entre trois aspects de notre sujet qui me paraissent essentiels. Le premier peut s'intituler « démocratie et société », c'est-à-dire considération ou analyse de la démocratie comme une certaine forme de société. Le second est caractérisé par l'expression « la gouvernance démocratique », si l'on me permet l'usage d'un néologisme devenu courant et que j'estime heureux, ce qui ne m'arrive pas souvent. Le troisième veut introduire un regard qui a sans doute été trop négligé. Il nous invite à nous arrêter sur démocratie et civilisation. Le premier aspect n'a pas retenu le plus longuement l'attention. Il s'agissait d'ailleurs surtout de poser quelques grands principes sans qu'il y ait lieu de se livrer à des analyses trop particulières. Mon principal souci était de faire entrer l'étude de la démocratie dans le domaine général de l'anthropologie, ce qui devait entraîner une enquête dynamique sur la différenciation des systèmes politiques et une autre sur les divers modes de communication à visée politique, plus ou moins ritualisés, que produit la vie en société. Enfin, sur certaines institutions destinées à servir les fins de cette société. Nous avons toutefois recueilli de substantiels éléments de réflexion sur ces points, de la communication initiale déjà mentionnée à haute portée conceptuelle et historique de Jean Béchler, et de celle d'un africaniste qui s'est aussi appliqué à une théorie générale de l'anthropologie, Philippe Laburte-Tolra, présentant la démocratie sous le regard d'un anthropologue. Des multiples enquêtes qu'il a réalisées sur le terrain, notamment au Cameroun, il a pu déduire que les principes de l'action humaine en vue de réaliser l'organisation de la société et souvent d'y faire prévaloir l'instauration de règles démocratiques ne différaient pas sensiblement, sinon par le degré de complexité, dans les civilisations dites primitives et dans celles que nous connaissons aujourd'hui. La tension entre l'aspiration individuelle à la liberté et la nécessité de règles communes pour le bien de tous existe partout. Un autre axe de recherche nous a été offert par notre confrère Bertrand Collomb, que je remercie très vivement de me l'avoir soumis. Il s'agissait désormais de se placer dans notre univers le plus actuel, en analysant la démocratie dans l'entreprise. Occasion d'envisager notre sujet d'étude dans un cadre plus limité, ou si l'on peut employer cet adjectif, à propos de l'immense réseau dont Bertrand Collomb possède la précieuse expérience. Cadre considéré comme une sorte de laboratoire d'enquête. En fait, ce qui ressort surtout, sans négliger les affinités partielles entre la démocratie d'entreprise et la démocratie politique, c'est le caractère particulier que prend l'exercice de ce système selon le lieu où il prend place, notamment par l'exigence d'une autorité forte et par l'importance des conflits et de leurs solutions. Il n'en est pas moins sûr que les exemples particuliers dont nous avons reçu un modèle sont fort utiles par les transpositions dont ils sont susceptibles en d'autres petites sociétés. Plusieurs communications ont été consacrées à un autre domaine d'enquête, portant sur ce qu'on pourrait appeler les usages de la société démocratique, en somme ce qui dépasse le cadre particulier des lois. Il m'a semblé à ce sujet digne d'intérêt d'étudier, sur ce plan très général, les différences qui peuvent affecter la conception de la société démocratique selon les pays, particulièrement entre la France et l'Angleterre. C'est donc à notre correspondant britannique John Rochester, grand connaisseur à la fois des deux pays, et historien familier des problèmes d'institution, que j'ai demandé de présenter pour nous l'une de ces différences caractéristiques sous le titre « Coutumes et constitution en démocratie ». Nous avons eu, grâce à lui, un excellent exemple d'étude du rapport entre le passé et le présent, parallèle à celle de deux esprits nationaux différents qui nous a permis de saisir, en politique et dans la vie sociale, la valeur propre de la coutume, fondamentale en Grande-Bretagne, et celle qui s'est imposée d'abord aux États-Unis et en France de textes constitutionnels écrits. Nous avons constaté en même temps le progrès de la seconde forme consacrée par la rédaction de textes fondamentaux portant déclaration des droits de l'homme, de caractère fondateur pour la définition de la démocratie. Dans la suite de cette importante communication, je situerai aisément une autre, non moins remarquable, œuvre de Françoise Mélogneau, qui a proposé une vue comparée de la démocratie aux États-Unis et en France. Mais tout en adoptant un point de vue assez comparable à celui de John Register, elle a procédé tout autrement, et c'était très enrichissant, que de faire la comparaison entre les deux méthodes, en partant au fond moins des institutions elles-mêmes que de l'esprit public, que de la mentalité, que de la psychologie sociale, en somme différente, qui caractérise d'un côté les États-Unis, de l'autre la France. Sur un thème non moins général, le conseiller d'État Raphaël Hadas-Lebel a traité le problème démocratie et représentation de la société civile. Prenant acte du caractère à la fois nécessaire et décevant d'une démocratie représentative telle que nous la connaissons aujourd'hui, où les élus risquent de s'éloigner de leurs électeurs et de constituer une semi-aristocratie d'une représentativité douteuse, il envisage d'une manière très complète les voies d'amélioration possibles. Retour au rapport entre passé et présent avec Simone Goyard-Fabre, grande spécialiste de Montesquieu, mais pleinement attentive à la vie politique contemporaine, qui a bien voulu traiter le sujet central, les trois pouvoirs et la démocratie de Montesquieu au temps présent. Elle s'élève d'une manière très pénétrante contre une interprétation que l'on pourrait dire trop exclusive de la distinction des pouvoirs chez l'auteur de l'Esprit des lois. La distinction est en fait d'ordre conceptuel. Elle ne saurait devenir pure séparation dans la réalité de la vie politique. Ou au contraire, un besoin d'union se fait constamment jour entre les trois pouvoirs, requérant évidemment un indispensable équilibre. Aussi bien la lecture de Montesquieu peut-elle nous aider dans une très souhaitable rénovation de la démocratie. C'est dans le même sens que nous oriente, avec l'autorité que lui confère l'exceptionnelle qualité de son œuvre de sociologue, notre confrère Raymond Boudon. Avec beaucoup de science et d'esprit, il s'est attaqué à la question que je lui avais posée : que signifie donner le pouvoir au peuple ? Bon exemple de ces formules passe-partout qu'il faut décrypter attentivement pour leur conférer un sens acceptable et applicable au réel. Mener cette recherche conduit à élaborer toute une théorie de la société. Je fais ici une pause pour adopter l'un de ces perspectives plus personnelles que j'annonçais en commençant. Sur toute cette partie de notre recherche, j'aimerais déborder rapidement le champ exploré dans les diverses communications et aller jusqu'aux racines des problèmes que soulèvent les rapports que nous essayons de définir entre démocratie et société. Comment une société peut-elle s'organiser ? Les fins qu'elle peut poursuivre et les moyens qu'elle peut y employer se rangeront sous deux grandes rubriques, la nature et la raison. Une nature évidemment plus ou moins pure et une raison plus ou moins éclairée. Deux termes moins clairs, comme on le voit, qu'on ne pourrait d'abord le croire et dont aucun ne peut être employé tout à fait à l'exclusion de l'autre. Il semble au premier abord que la démocratie appartienne presque entièrement au domaine de la raison. Qu'est-ce en effet qui en elle peut relever de la nature ? Uniquement si l'on s'en tient à son schéma essentiel, sa structure arithmétique, les individus qui la composent, censés tous égaux et devant le rester. On connaît le slogan « un homme, un vote ». Il va de soi qu'une société ne peut pas exister et vivre par prise en compte de ses seules données, il faut nécessairement qu'intervienne la raison et que celle-ci détermine un régime permettant de réaliser l'unité formelle de cette totalité initialement indifférenciée. Cette condition est au moins partiellement applicable même au régime de la démocratie directe, qui requiert déjà la définition d'un corps de citoyens, la distinction des affaires publiques et des affaires privées, le rôle et la distribution des volontés individuelles, le statut des assemblées délibérantes, s'il y en a, et celui des magistrats chargés de faire exécuter leurs décisions, les règles à suivre dans le cas de vote éventuel. C'est plus encore la raison qui doit inspirer toute forme de démocratie représentative, où les échelons à franchir sont encore plus nombreux et se déroulent selon des modalités plus subtiles. Tout ce réseau de lois fondamentales propres à organiser la vie sociale et, le cas échéant, à lui donner la forme démocratique, prend habituellement le nom de constitution. En celle-ci se manifeste la puissance créatrice de la raison, une puissance qui ne dispose pourtant d'aucun pouvoir actif. Ce sera une puissance semblable qui, au-delà de la Constitution, élaborera des lois. Sans doute, la nature n'est-elle pas absente, sous la forme des choses, objet des décisions prises, mais il appartient à la raison d'en user selon ses propres fins. En face des choses, la raison, dans l'une de ses fonctions, construira la science, dans l'autre, elle instaurera le droit. Pour clarifier notre propos, arrêtons-nous à un autre exemple, celui d'un régime qui a toujours été opposé à la démocratie, celui qu'on appellera, en insistant sur le sens étymologique du terme, monarchie. Réduisons-le aussi à son schéma, qui, quel que soit le cas de figure, comporte toujours une tête dominant toutes les autres. Ce n'est pas la raison qui dicte initialement ce modèle, c'est la nature. Le modèle est en effet celui de la famille, où les différences individuelles sont d'ordre primaire et où un pouvoir réel et actif se concentre en une personne, généralement celle du père. De la condition du père à celle du roi, il n'y a de différence fondamentale que celles qui apparaissent dans des cas particuliers en marge du schéma général. Ce modèle ne bénéficie pas de l'autorité que confère la raison à celui de la démocratie constituée. Mais si la raison ne l'a pas inventée, elle peut après coup le légitimer, au besoin sous condition. En tout cas, de par son caractère naturel, il échappe à l'abstraction du rationnel. Il peut disposer des ressources de la nature, de toutes les énergies qu'elle renferme. Entre le père et sa famille, comme entre le roi et son peuple, si l'inégalité règne, l'affectivité peut se déployer. C'est un puissant lien social. On ne saurait en attendre autant de la solidarité entre égaux, simple prise en compte d'une situation de fait. La solidarité, c'est un fait avant d'être un droit, et cela peut rester un fait. La force du lien social est aussi la meilleure garantie d'une autorité qui, pour s'exercer correctement, doit joindre à l'efficacité l'adhésion librement consentie. Il importe d'arrêter ici cette énorme digression sans méconnaître qu'elle devrait encore recevoir de substantiels compléments, notamment pour opérer le passage du schéma à l'image, comme aurait dit Bergson, et pour éviter les risques de déviation qui guident les diverses options pratiques. On en retiendra surtout que la société démocratique, plus que toute autre à laquelle on pourrait la comparer, est une libre création de l'esprit, où l'homme est invité, à ses risques et périls, à un effort permanent d'invention et de prudence, avec le souci essentiel de réaliser une communauté que l'égalité, même parfaite, ne saurait garantir. Je vais aller plus vite pour la fin. Dans le second volet de notre année de réflexion, nous devions nous efforcer de définir la gouvernance démocratique. Sous ce titre pouvaient se composer deux séries de questions. Comment fonctionne le régime démocratique considéré dans son unité ? Première question. Deuxième question. Le régime démocratique impose-t-il certaines manières de gouverner et en interdit-il certaines autres ? On peut en fait envisager simultanément toutes ces catégories de problèmes. La recherche pouvait s'étendre dans beaucoup de directions. On a essayé d'aborder quelques-unes des plus importantes, mais en choisissant d'abord la qualité des communications. Il ne saurait être question ici, vu la richesse des matières et de l'approche qui en a été donnée, de poursuivre selon la ligne que j'ai suivie jusqu'ici, et de donner une idée précise du chemin chaque fois tracé. Je ne dépasserai guère le stade de l'énumération, mais il suffira, je pense, de se reporter au titre que je citerai pour se rendre compte du très grand intérêt des sujets abordés, et je garantis la qualité de l'apport qui a été proposé à propos de chacun d'eux. Je dirais donc rapidement que nous avons évidemment entendu le grand expert de la démocratie aujourd'hui, Pierre Rosanvallon, qui nous a parlé d'un sujet qui attire particulièrement son attention aujourd'hui, la myopie démocratique, comment y remédier. En somme, l'un des défauts des démocrates, c'est de ne pas avoir la vue assez longue, assez étendue, et de voir trop le court terme. Nous avons entendu une communication qui me semble aussi tout à fait importante à signaler, celle de notre confrère Renaud Denoît de Saint-Marc sur la fonction de conseil en démocratie. Et comment est-ce qu'une démocratie peut accepter le conseil ou avoir besoin du conseil ? C'est un sujet capital, peu étudié, me semble-t-il, mais qui a été merveilleusement exposé par Renaud Denoît de Saint-Marc. Pour un autre sujet extrêmement délicat auquel je faisais allusion déjà tout à l'heure, l'autorité en démocratie, c'est François Théré qui, avec son habituelle précision et son habituelle subtilité, a engagé une enquête tout en me reprochant de lui avoir posé un piège. En fait, l'autorité en démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Il aurait préféré parler de l'autorité en général. Mais justement, l'autorité en démocratie, c'est très particulier et cela vaut la peine d'être considéré. Nous avons aussi eu un autre expert en personne de Michel Ferrier, qui est ancien secrétaire général du Conseil de la Défense nationale. Défense et démocratie. Défense, voilà encore un sujet qui paraît particulièrement difficile. Et il était évident, comme il nous l'a montré, que la défense, c'est un problème qui se traite généralement en dehors de toute considération d'un système politique, car elle pose toujours des problèmes spécifiques. Et pourtant, il y a une vision démocratique de la défense. Attitude du même genre chez Bernard Gazier, à qui j'avais proposé le sujet, la démocratie engage-t-elle une certaine politique économique ? Chacun peut avoir évidemment une idée particulière sur ce sujet qui a été donc l'objet d'une enquête approfondie. Quant à l'ambassadeur Laurent Stefanini, dont je salue la présence parmi nous, il nous a parlé de la démocratie et les institutions internationales, c'est-à-dire c'est un autre champ de l'expérience politique, un autre champ politique dans lequel l'existence d'une démocratie, le fait de la démocratie, peut conduire la politique. Une analyse plus légère, si dirons-nous, mais non moins importante et réelle, et a été conduite par le grand géographe Jean Bastier, la démocratie au risque des élections. Que viennent faire les élections dans la démocratie ? Est-ce que les élections sont bonnes ou non pour la démocratie ? Plusieurs impressions d'ensemble peuvent être retirées de cette série de communications. D'abord, celle des ressources que possède la démocratie, et aussi celle de ses limites. Puis surtout, que même un régime démocratique éventuel n'est pas le tout d'un État, et que les difficultés à résoudre seraient les mêmes et souvent justiciables des mêmes attitudes s'ils se déroulaient sous d'autres régimes. On ne peut aller contre la réalité des faits. C'est alors seulement l'esprit gouvernant l'action qui peut changer. Et nous devons donc déborder la stricte politique, la stricte réalité, et nous élever à ce qui est le dernier point, la dernière partie de notre année, c'est-à-dire ce qui nous conduit à un véritable achèvement et que j'intitule « Démocratie et civilisation ». Ce n'est pas dans les choses, ni même dans les institutions abstraites, que réside la force de la démocratie. C'est dans les hommes qui la composent et qui inscrivent en elle les valeurs dont ils sont porteurs. Dans cette dernière enquête, nous avons évoqué soit des faits à valeur d'exemple, soit des problèmes d'actualité et les solutions qui paraissaient souhaitables. Et je cite encore les points sur lesquels, auxquels nous nous sommes arrêtés. Le recteur Gérald Antoine nous a parlé de démocratie et éducation avec ses belles formules dans lesquelles il disait notamment « démocratie égale éducation » et « éducation égale démocratie ». Et je crois qu'avec ces deux égalités, nous avions une belle perspective ouverte. Nous avons proposé aussi deux études parallèles, mais extrêmement différentes, sur l'aspect religieux de la démocratie. Avec une communication de l'abbé Jean-Robert Armogat, « Catholicisme et démocratie », et une d'un ancien pasteur protestant, Hubert Bost, « Protestantisme et démocratie ». Et on peut deviner que d'un côté et de l'autre, ce n'est pas du tout les mêmes points de vue qui se déroulent. Et si le catholicisme a eu dans son histoire des difficultés avec la démocratie, le protestantisme, au contraire, en a beaucoup profité. Un journaliste, Henri Pigeat, nous a, de son côté, proposé une réflexion sur le pouvoir médiatique et la démocratie en l'époque où nous sommes. Et son point de vue, que je craignais de voir assez pessimiste, était au contraire relativement optimiste. Alors que la presse est souvent attaquée, il l'a intelligemment défendue. Dans le prolongement de cette enquête, nous avons entendu Isabelle Falque-Pierrotin, grande spécialiste de la question, pour nous parler de la démocratie et l'Internet. Et là encore, c'est un sujet sur lequel on a des idées vagues qu'il importe d'approfondir. Parmi les concepts importants qu'il y avait à analyser pour notre sujet, il y en avait deux en particulier, la liberté d'une part, l'égalité de l'autre. La liberté, je n'ai pas trouvé de candidat pour venir nous en parler. Mais nous avons entendu, sous un aspect historique et littéraire, tout récemment, une conférence de Sylvain Menant, professeur à la Sorbonne, deux conceptions modernes de l'égalité, Voltaire et Rousseau. Et je crois qu'avec les deux points de vue extrêmement différents de l'un et de l'autre, l'un plus favorable, en somme, à une société industrielle, et l'autre beaucoup plus soucieux, beaucoup plus intransigeant sur la notion d'égalité, Rousseau, nous avions au fond toutes les possibilités, tout l'éventail des possibilités sur ce sujet. Nous attendons encore quelques autres communications et nous comptons beaucoup sur toutes ces communications. Jean Cluzel, qui a déjà tant travaillé sur la démocratie et sur ses aspects moraux, nous parlera de démocratie et responsabilité. Et nous aurons un hôte illustre, mais qui est tout de même membre de l'Institut comme correspondant, le prince El Hassan de Jordanie, qui parlera de islam et démocratie. Enfin, notre consoeur Mireille Delmas-Marty parlera de démocratie et mondialisation, ce qui n'est pas un mauvais titre pour une dernière communication de l'année. Pour compléter ce tableau, je dois signaler aussi que 4 séances ont été consacrées à des sujets hors programme. Ils ont été choisis pour leur rapport à l'actualité. Voici ce que les titres. Philippe Sellier, professeur émérite à la Sorbonne, nous a interrogé une notion qui pose des problèmes d'analyse textuelle, d'analyse de sens, d'analyse semblable à celle de la démocratie. Qu'est-ce qu'une secte ? Une secte, une notion d'une secte. Voilà un mot sur lequel là, on peut se battre facilement. Et d'ailleurs, l'auteur de la communication a reçu quelques correspondances vengeresses. Jean de Matan, qui est responsable de grandes actions humanitaires, nous a parlé d'un autre sujet tout à fait actuel, le logement social, un casse-tête de notre temps. Michel Prigent, président des Presses universitaires de France, a exposé la situation actuelle de l'édition française en sciences humaines, autre sujet tout à fait en rapport avec les préoccupations d'aujourd'hui. Nous attendons encore un collègue allemand qui est aussi correspondant de notre académie, Karl-Heinz Stierle, professeur à l'Université de Constance, qui parlera « Conscience de la ville et discours urbain ». Titre un peu obscur peut-être, mais qui est très prometteur, me semble-t-il, et je peux le garantir en connaissant fort bien l'auteur. Pour conclure sur notre sujet d'année en deux mots, la démocratie, sujet qui éveille aujourd'hui beaucoup de discussions et de réserves, une impression assez uniforme se dégage de l'ensemble des communications, celle d'une réelle confiance dans l'avenir de ce régime, mais aussi celle de la nécessité d'une mise en ordre et d'une reconstruction. Je ne sais pas si nous y aurons beaucoup contribué, mais nous avons essayé. Merci de votre attention. Bien, je dois d'abord maintenant donner la parole au vice-président Jean Béchler pour la lecture du palmarès des prix.
Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est en cette circonstance solennelle et dans ce cadre prestigieux que l'Académie rend public chaque année, conformément à ses statuts, le palmarès des prix, bourses et médailles qu'elle attribue. Par la distribution de ces prix, l'Académie remplit l'une des missions de service public que lui a confiée la nation. Je cite « Suivre conformément aux lois et arrêtés du directoire exécutif les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République, loi du 3 Brumaire en 4, ce qui se traduit en langage plus moderne par le titre 4 de la loi du 18 avril 2006, je cite, « Les académies ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts. » Toutefois, elle ne le fait que grâce à la générosité de celles et de ceux qui, lui accordant leur confiance pour perpétuer leur mémoire ou leur action, ont décidé d'abriter en son sein des fondations. La volonté de pérennité des fondations a amené l'Académie à suspendre la distribution de certains prix cette année afin de ne pas amoindrir la valeur de leur capital. Cette décision temporaire permettra de reprendre dès l'an prochain une distribution normale de ces prix. Aujourd'hui est, pour nous tous, le jour des lauréats et de la célébration de leurs mérites. Je vais donc maintenant lire, comme il m'incombe, l'ensemble du palmarès, en commençant par les grands prix décernés par notre compagnie. Je remercie les lauréats de bien vouloir se lever quand je le leur indiquerai et pas avant. De même que je remercie par avance l'assistance de ne les applaudir que sur ma requête. Tout cela, non pas par esprit directif, mais pour gagner du temps, parce que la liste est longue, parce que les mérites sont nombreux. Je commencerai par les grands prix de l'Académie. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un prix de l'Académie, mais d'un prix créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, géré par l'Académie, je commencerai par rappeler le prix Claude Lévi-Strauss, doté de 100 000 euros, et destiné à récompenser l'excellence dans le champ des sciences humaines et sociales. Le prix 2009 avait couronné l'anthropologue Dan Sperber. En 2010, il récompense l'économiste Jean Tirol pour l'ensemble de son œuvre. Le prix lui sera remis le 29 novembre prochain. Trois prix de la Fondation Édouard Bonnefous de l'Institut sont attribués sur proposition de trois sections de notre Académie. Cette année ont été récompensés, sur proposition de la section de philosophie, le père Xavier Tilliette pour l'ensemble de son œuvre, sur proposition de la section législation, droit public et jurisprudence, l'association Henri Capitan pour l'ensemble de son action, et enfin sur proposition de la section générale, Maurice Bernard pour son ouvrage en trois tomes, Les élites françaises, paru en 2010. Les prix Édouard Bonnefous de l'Institut seront remis le 13 décembre prochain. Les deux grands prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise sont attribués respectivement à Göran Malmquist et à Guy Darmé pour leur action en faveur de la connaissance de la culture taïwanaise en France et en Europe. Une cérémonie particulière de remise sera organisée en présence du ministre de la Culture de Taïwan en 2011. Deux grands prix d'économie sont distribués grâce à la générosité de la baronne Marucha Terili Marimo, dont je salue l'exemplaire fidélité à notre académie, ainsi qu'à la mémoire de son époux, qui fut un de nos correspondants. Le prix Terili Marimo est attribué à Pierre-André Chiappori pour l'ensemble de son œuvre et le prix Ugo Papi, Gaston Leduc, à Vivien Lévy-Garbois et Gérard Marek pour leur ouvrage « Macro-psychanalyse, l'économie de l'inconscient » paru en 2007. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. Et maintenant qu'ils sont debout, vous pouvez les applaudir. Un autre grand prix est attribué sur proposition de la section économie. Il s'agit du prix Olivier Le Serre, créé par notre confrère Bertrand Collomb et par la société Lafarge. Les ressources de cette fondation servent à organiser un colloque annuel autour des idées du lauréat. Le prix est attribué cette année à Laurent Bataille, président de Poclin Hydraulics, pour ses conceptions humanistes du management et leur mise en œuvre dans le droit fil de la pensée d'Olivier Le Serre, résumée par la formule « mettre l'homme au cœur de l'entreprise ». Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. Je vous félicite tous. Le prix Louis Cros, qui récompense chaque année des travaux savants ou des témoignages dans le domaine de l'éducation, est partagé à part égale entre Geoffroy Loveau et Laurence Martin pour la publication de leurs thèses respectives, l'une, rationalité académique, rationalité économique, le devenir de l'université face à l'exigence de la justice sociale, et l'autre, la stratégie de Lisbonne et l'économie de l'éducation vers l'émergence d'un cadre juridique européen des services de l'éducation, point d'interrogation. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. J'en viens maintenant aux autres prix distribués sur proposition des sections, commission ou jury ad hoc. Prix attribué sur proposition de la section de philosophie. Le prix Victor Delbos est attribué à André de Muralt pour « Les métaphysiques », titre donné à sa traduction analytique commentée et annotée des livres Gamma, Zeta, Theta, Iota et Lambda de la métaphysique d'Aristote, est paru aux Belles Lettres en 2010. Le prix Jégner est attribué à Gérard Jorlan, une société à soigner, hygiène et salubrité publique en France au XIXe siècle, paru en 2010. Le prix Saint-Tour est attribué à Marie Pérouse, pour son livre « L'invention des pensées de Pascal », les éditions de Port-Royal, 1670-1678, paru en 2009. Le prix Danian Bouvray est attribué à François Trémolière, « Fénelon et le sublime, littérature, anthropologie, spiritualité, 2009 ». Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever à leur tour. et de recevoir nos applaudissements. Prix attribué sur proposition de la section de morale et sociologie. Le prix Paul Vignier-Docton est attribué à Marie-Joëlle Rupp, Vignier-Docton, un utopiste contre les crimes de la République, paru en 2009. Le prix Adrien Duvent va à Caroline Fourest, La dernière utopie, menace sur l'universalisme, 2009. Le prix De Molombe est attribué à Jacques Hochmann, Histoire de l'autisme, 2009. Le prix Le Diocèse de Pénanrome est attribué à Isabelle Thirault, conjointement avec Hua Lin Shan, Les ruses de la démocratie, protestée en Chine, paru à Paris en 2010. Enfin, le prix Joseph Saillé est attribué conjointement à Michel Forcé et Maxime Parodi pour leur livre « Une théorie empirique de la justice sociale » paru en 2010. Je leur demande de se lever à leur tour. Et voici maintenant les prix attribués sur proposition de la section de législation, droit public et jurisprudence. Le prix Joseph Hamel est attribué à Régis Bismuth pour sa thèse « La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le droit international public », thèse soutenue à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2009. Le prix Dupin aîné est attribué à Charles-Édouard Buchet pour sa thèse « L'inexécution du contrat en droit privé et du contrat administratif » soutenue à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas la même année 2009. Le prix Charles Dupin est attribué à la thèse d'Émilie Gaillard-Sebillot « Génération future et droit privé » soutenue à l'Université d'Orléans en 2008. Je demande à ces différents lauréats de bien vouloir se lever. Merci. Prix attribué sur proposition de la section d'économie politique, statistique et finances. Un seul prix a été attribué, le prix Rossi, est attribué à Philippe Diribarne, L'épreuve des différences, l'expérience d'une entreprise mondiale, paru en 2009. Si M. Diribarne veut bien se lever, nous l'applaudissons. Les prix attribués sur proposition de la section Histoire et Géographie sont beaucoup plus nombreux. Je commencerai par le prix Jean Saint-Denis, qui est attribué à Sarah Mohamed Gaillard, L'archipel de la puissance, point d'interrogation, la politique de la France dans le Pacifique Sud de 1946 à 1998, paru à Bruxelles en 2010. Le prix Joseph Dutheil est attribué à Jacques-Alain de Sédouy, Le concert européen, aux origines de l'Europe, 1814-1914, 2009. Le prix Gustave Schex d'Est-Ange est attribué à Emmanuel Garnier, Les dérangements du temps, Paris 2010. Le prix Hercule Catenacci est attribué à Gilles Fumé, Les champs, C-H-A-M-P-S, les champs du monde, nourrir la planète, Paris 2009. Le prix Paul-Michel Perret va à Tony Kunter, Charles Maurras, la contre-révolution pour héritage, 2009. Le prix Drouin de Luys est attribué à François Pernaud, qui a vraiment tué Henri IV, lisez le livre, vous le saurez, paru en 2010. Et enfin, le prix Auguste Gérard est attribué à Francine Dominique Lichtenhahn, Élisabeth Ière de Russie, paru en 2007. Que tous ces lauréats veuillent bien se lever. Un seul prix a été attribué cette année sur proposition de la section générale. Il s'agit du prix Louis Marin, attribué à Dominique Lecourt pour la direction du Dictionnaire de la pensée médicale, paru déjà il y a quelques années, mais toujours d'actualité. Le lauréat voudra bien se lever. Le voici. Bravo. Certains prix sont attribués sur proposition des commissions mixtes. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ce sont des commissions composées de représentants de chacune des 6 sections de l'Académie. Elles attribuent les prix dont la définition excède les compétences de chacune d'entre elles prises séparément. C'est ainsi que le prix Daniel Strasser a été créé par la princesse Radziwill, que je salue, en mémoire de son époux. Il est attribué au comte Denis de Kergorlay pour son action en tant que directeur exécutif de l'association Europa Nostra. Le prix Estrade Delcros est attribué à Guillaume Barrera, Les lois du monde, enquête sur le dessein politique de Montesquieu, paru en 2009. Le prix Torel est attribué à Étienne Klein, Galilée et les Indiens, paru en 2008. Le prix Corbet va à Patrick Facon, Histoire de l'armée de l'air, 2008. Le prix Ernest Lémonon est attribué à Frédéric Turpin, De Gaulle, Pompidou et l'Afrique, décolonisé et coopéré, 1958-1974, 2010. Le prix Malouet est attribué à titre personnel à M. Bruno de La Fortelle en marque d'estime publique. Enfin, le prix Dulac est attribué au capitaine Fabrice Martinez de la police nationale pour son courage au moment du tremblement de terre à Haïti. Je demande à leur tour aux lauréats de bien vouloir se lever et de bien vouloir accepter nos applaudissements. J'en arrive ainsi à la dernière volée, si j'ose dire, de prix. Il s'agit de ceux attribués sur proposition de jury particulier, voire du bureau de l'Académie. Le prix Edmond Fréville Pierre Mesmer est attribué à Christian Malice pour la direction de l'ouvrage Guerre et manœuvre, héritage et renouveau, paru en 2009. Le prix Pierre-Georges Castex de littérature française est attribué à Béatrice Guion pour l'ensemble de son œuvre. Le prix Valmy, doté par le Cercle Esprit de Défense, est attribué à l'association Connaissance de la Meuse pour l'organisation avec des bénévoles du spectacle Des Flammes à la Lumière, organisé près de Verdun pour évoquer la Grande Guerre. Le prix Claude Berthaud de l'Institut de France est attribué à Philippe Madeline et à Jean-Marc Morisseau pour l'ouvrage « Un paysan et son univers, de la guerre au marché commun, à travers les agendas de Pierre Lebugle, cultivateur en pays d'Auge », paru en 2010. Le prix Domal, enfin, du domaine de Chantilly de l'Institut, est attribué à Isabelle Davion pour sa thèse « Mon voisin, cet ennemi, la France face aux relations polono-tchécoslovaques entre les deux guerres, Bruxelles, 2009 ». Que les lauréats veuillent bien se lever. Nous les applaudissons. Enfin, et j'en aurai fini, sans distribuer de prix, deux fondations abritées par l'Académie mènent des actions, chacune dans leur domaine. La première est la Fondation pour l'avenir de la relation, créée par André Lévesque. Elle subventionne des actions ou des recherches qui se situent dans la continuité de l'œuvre du fondateur, récemment décédé, à savoir la création de projets à partenaires multiples, potentiellement en conflit, et l'étude des valeurs communes à l'humanité. L'autre, la Fondation pour le progrès en éducation, a été créée par Sylvaine Marandon. Elle repère et aide les expériences innovantes en matière de pédagogie. Je renouvelle, au nom de tous mes confrères, mes félicitations aux lauréats de l'année 2010 et je les remercie de contribuer, chacun à la place qui est la sienne, au progrès de la connaissance, au mieux-être de tous, ainsi qu'à la gloire de notre nation et de notre culture. Monsieur le Président vous remettra médailles et diplômes à l'issue de la séance. Contrairement à ce qui vous a été annoncé en juillet, la remise de ces récompenses se déroulera non pas dans la bibliothèque, mais dans la salle Comtesse de Caen, où est organisée une réception. La salle se trouve à gauche en sortant. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur le Vice-président. La parole est à Monsieur le Secrétaire perpétuel.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur, Monsieur le représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Messieurs les recteurs d'académie, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier de l'Institut, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, l'an dernier, en 2009, l'événement majeur de notre vie académique avait été, comme vient de le dire le président Béchler, la création du prix Claude Lévi-Strauss. En 2010, l'événement marquant a été la signature d'une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, dont je salue ici les représentants. Par cet engagement, l'Académie des sciences morales et politiques a scellé les liens organiques, naturels et anciens qu'elle entretient avec l'éducation nationale. C'est dans cet esprit et en coordination avec la Direction générale de l'enseignement scolaire que s'est constitué autour de François Théré un groupe de travail sur l'introduction de l'enseignement du droit dans les lycées qui est souhaité par le président de la République. De même, Yvon Gattaz, entouré de Marcel Boiteux, de Bernard Bourgeois et de Bertrand Saint-Cernin, est en train d'achever un rapport sur les avantages de la formation en alternance école-entreprise, rapport dont les conclusions seront naturellement communiquées au pouvoir public. François Théré, déjà cité, a par ailleurs dirigé également un groupe de travail qui vient d'achever un rapport sur le droit de la responsabilité, volet majeur des réformes envisagées par le ministère de la Culture. François Théré, toujours, mais cette fois avec la collaboration de Renaud Denoy de Saint-Marc, a pris la succession du regretté Roland Drago à la tête d'un groupe de travail portant sur les agences et autorités administratives indépendantes et sur leurs compétences, particulièrement dans le domaine de la santé. Dans un tout autre domaine, Raymond Boudon, en collaboration avec les chercheurs du GEMAS, c'est-à-dire du groupe d'études de l'analyse sociologique de la Sorbonne, a mené une vaste enquête, inédite dans notre pays, sur les inégalités et le sentiment d'injustice en France. Tout un sujet. Enfin, je terminerai cette énumération non exhaustive en citant le groupe de travail que vient de constituer Bernard d'Espagna, pour étudier les apports de la physique contemporaine à la théorie de la connaissance. Mais les groupes de travail ne sont pas les seuls lieux de réflexion et de confrontation d'idées. L'activité de l'Académie se manifeste aussi par des colloques, volontairement peu nombreux et le plus souvent discrets, organisés pour répondre à un besoin précis et réunissant les meilleurs experts. Ainsi, pour traiter du sujet majeur de la régulation financière, avons-nous fait appel le 4 octobre dernier à nos confrères Jean-Claude Trichet, Jacques Delarosière et Michel Pébreau, mais aussi à Mario Draghi, le gouverneur de la Banque d'Italie. Une semaine plus tard, en collaboration avec l'Académie des sciences, nous avons examiné la question des risques financiers à travers les liens qu'entretiennent les mathématiques et l'économie, sujet actuel s'il en est. Notre confrère Marcel Boiteux, déjà cité, avait réuni pour ce faire trois éminents économistes mathématiciens qui nous ont exposé leur vue sur ce sujet brûlant. Dans trois semaines, à l'occasion d'un colloque qui réunira des personnalités allemandes et françaises, j'aurai moi-même l'honneur de parler de l'actualité et des perspectives d'avenir du modèle rhénan, après que le vice-président de l'université Goethe de Francfort aura évoqué le chancelier Ludwig Erhard, père du libéralisme, dans l'Allemagne d'après-guerre. Je pourrais continuer cette énumération des travaux académiques en citant tous les confrères qui, par leurs publications ou leurs interventions dans des colloques, en France comme à l'étranger, contribuent au renom de notre Académie, mais je craindrais trop d'en oublier, et la lecture d'une telle liste, même incomplète, allongerait excessivement mon propos. Je tiens cependant à citer ici un nom, celui de mon successeur. En effet, bien que le secrétaire de l'Académie soit toujours qualifié de perpétuel, il n'exerce plus, en vertu d'un admirable oxymore, qu'un mandat à durée déterminée de 6 ans non renouvelables. Le mien expirant le 31 décembre prochain, notre compagnie a préparé l'avenir en élisant à l'unanimité un homme de grande expérience et de haute culture. Il s'agit de Xavier Darcos, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre du Travail et des Relations sociales, qui sera donc le 16e secrétaire perpétuel de notre Académie. Quant à moi, au moment de choisir le thème de ma dernière intervention à cette tribune, du moins en ma qualité actuelle, j'ai été saisi par la force évocatrice de l'allitération formée par les deux mots « coupole » et « couple ». Cette coupole, dont Mazarin a décidé la construction il y a 350 ans, et qui, par sa puissance architecturale, traduit la puissance politique de la France unitaire face à l'émiettement qu'elle impose à son ennemi, l'Allemagne. Et le couple franco-allemand, cette expression si insolite dans le vocabulaire des relations internationales, mais si courante dans notre pays, avec une nuance chaleureuse de romantisme germanique qui peut aller jusqu'à suggérer ce que Valéry Giscard d'Estaing a désigné comme de l'intimité, l'intimité d'un vieux couple arrivé à ses noces de diamants. De l'émiettement de l'Allemagne obstinément voulu par la France pendant des siècles à l'intimité du couple franco-allemand, c'est une étonnante page d'histoire que je suis fier de pouvoir évoquer devant vous en cette année 2010 qui offre plusieurs occasions de commémoration. En effet, il y a 20 ans, en 1990, advenait le grand événement de la réunification allemande. Il y a 60 ans, en 1950, Robert Schuman lançait la Communauté européenne du charbon et de l'acier, tendant une main fraternelle à l'Allemagne 5 ans après la défaite du Troisième Reich. Et pourquoi pas rappeler qu'il y a tout juste 200 ans, en 1810, Madame de Staël écrivait son fameux éloge intitulé « De l'Allemagne », dont Napoléon fit interdire la publication en France. Puisque notre vocation est de prendre de la hauteur, je vous propose de porter un instant le regard vers les hauteurs de cette coupole. Mazarin avait choisi cette citation d'Ézéchiel, « Sedebit sub umbraculo eius in medio nationum » « Il siégera à son ombre au milieu des nations ». Les nations étaient ces quatre territoires que l'habile diplomatie du cardinal avait apportés au royaume de France. L'ombre est celle du grand arbre évoqué par Ézéchiel et pour Mazarin, la métaphore du pouvoir de son roi Louis XIV. Le grand arbre, c'était donc la France, ce n'était pas l'Europe. L'Europe de Mazarin est celle des traités de Westphalie de 1648. Plus que jamais, la politique de la France est alors fondée sur le maintien de la division du Saint-Empire en plusieurs centaines d'États qui manifestent l'affaiblissement des Habsbourg au bénéfice des Bourbons. Plus que jamais, de l'autre côté du Rhin, l'unité culturelle et le morcellement politique caractérisent le monde germanique. Plus que jamais, le roi de France est empereur en son royaume. Et pourtant, nulle haine nationale n'oppose alors les Français et les Allemands. Il ne faut pas confondre et commettre d'anachronisme. Si l'État-nation en France s'est construit contre l'idée impériale, portée historiquement par les Allemands, il ne s'est pas traduit par un choc des nationalismes avant le XIXe siècle, c'est-à-dire à l'époque précisément de l'unification allemande. Comme par un retour de balancier, l'unité nationale allemande s'est faite contre cet État-nation qui avait porté la révolution dans tout le continent et s'était par deux fois transformé en empire. Le premier empire français avait simplifié la carte de l'Allemagne et l'Allemagne s'était unie victorieusement contre l'empire. Le second empire, à son tour, avait cru devoir faire bon accueil aux aspirations de l'Allemagne à l'unité, mais l'Allemagne, habilement manipulée par Bismarck, s'est unie victorieusement contre l'empire français, au point que, symboliquement, on s'en souvient, Guillaume Ier avait été proclamé empereur d'Allemagne dans la galerie des glaces du château de Versailles. Si l'hostilité entre Français et Allemands est en fait beaucoup plus récente que l'hostilité entre Français et Anglais, puisqu'elle ne date guère que de Bismarck, il faut reconnaître qu'elle a été beaucoup plus violente. C'est alors que s'impose significativement dans le vocabulaire courant le mot « Bosch » pour désigner les Allemands. Dans sa dernière édition, le dictionnaire de l'Académie française précise que le mot « Bosch » est péjoratif et vieilli. Aujourd'hui, il a même disparu, alors que s'imposait au contraire, pour désigner les relations franco-allemandes, cette expression de couple qui est, me semble-t-il, sans précédent, ni dans l'histoire, ni dans la géographie. La naissance de l'Union européenne est le fruit d'une véritable vie nouvelle dans les relations entre la France et l'Allemagne. Cette naissance, je l'ai dit, du 9 mai 1950, et l'acte qui en fait foi s'appelle la déclaration Schuman. Si bref soit-il, ce texte n'en constitue pas moins l'un des événements les plus étonnants, voire les plus beaux de l'histoire. Où donc, en effet, avait-on vu, au terme de deux guerres implacables, deux nations se convertir subitement au dessein d'un monde nouveau, où le vainqueur renonce à humilier le vaincu pour lui proposer, sans arrière-pensée, le pardon, la réhabilitation et la coopération institutionnalisée dans la communauté européenne. Cette communauté était fondée sur un double déséquilibre, né après la guerre et qui s'est maintenu jusqu'à la réunification allemande. D'un côté, une Allemagne dont la primauté économique s'affirmait dès les années 50 à l'époque du traité de Rome. De l'autre côté, une prépondérance politique française se maintenait, fondée sur les droits du vainqueur, reconnus après la guerre, mais aussi sur le siège de membres permanents au Conseil de sécurité et bientôt sur l'arsenal nucléaire. C'est ce que, à sa manière, le général de Gaulle disait à Alain Peyrefitte peu après la signature du traité de l'Élysée en 1963, je cite, « En réalité, nous tiendrons les rênes de cette Europe parce que nous aurons la bombe et une influence mondiale que les Allemands n'ont pas. Dans notre attelage, ils ne sont pas le cheval de tête. C'est un pauvre pays qui a une jambe de bois. Il en sera ainsi tant qu'il n'aura pas été réunifié. » Fin de citation. Le traité de l'Élysée fut un résultat de ce double déséquilibre. Il créa un système de consultation régulière entre les deux pays et contribua efficacement à pérenniser l'entente qui a offert aux relations franco-allemandes une étonnante capacité d'adaptation et qui a continué jusqu'aujourd'hui. Mais il serait naïf de croire que ces relations ont toujours été sereines. Au contraire, Jean-François Poncet, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui connaît mieux que personne les relations franco-allemandes, constate, je le cite, « les rapports entre les deux pays n'ont jamais été durablement sereins. Ils ont connu autant de bas que de hauts, autant de brouilles que de réconciliations, autant de phases de tension que de périodes euphoriques. Ce qui les caractérise le mieux dans la durée n'est pas leur constante harmonie, mais leur résistance au choc, leur étonnante aptitude à la guérison, leur constante adaptation aux évolutions de l'environnement international. » Fin de citation. Ces relations ont même résisté à la réunification. L'heure de la réunification a sonné en 1990 dans des circonstances qui ont surpris tout le monde et dans des conditions qui laissèrent bien peu de place au couple franco-allemand. En effet, après la chute du mur, un véritable vent de panique souffla sur la France. Invité à Berlin par le chancelier Kohl pour partager la loi des Allemands, le président Mitterrand fila à Kiev dans les derniers jours de 1989 pour inciter Gorbatchev à ralentir la réunification. Alors que la France se déclarait officiellement favorable à cette réunification, son crédit était entamé par un sarcasme attribué à François Mauriac, vous allez voir, c'est bien de lui, et qui depuis longtemps avait fait le tour de l'Allemagne. La France aime tellement l'Allemagne qu'elle préfère qu'il en existe deux plutôt qu'une seule. Ce qui a permis la réunification telle qu'elle s'est faite en quelques mois entre novembre 89 et septembre 90, c'est un axe entre Bonn et Washington. Pendant ces événements, comme l'a montré notre confrère Georges-Henri Soutou, Bush et Kohl ont marché ensemble pour obtenir par les reculs successifs de l'URSS et la levée progressive des réticences de la France le rattachement des Länder de l'Est à la RFA, formant une Allemagne entièrement intégrée dans l'OTAN et désormais pleinement souveraine. La réunification modifiait en profondeur l'équilibre de l'Europe. La réponse de la France fut de resserrer les liens avec l'Allemagne, notamment par le traité de Maastricht, qui a créé l'euro. Alors, quel chemin parcouru depuis l'après-guerre ? Cette histoire est celle d'une réconciliation réussie, on l'a vu, devenue le socle d'une alliance unique en son genre. Ce couple n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Depuis l'origine, il est au service d'une cause, la construction de l'Europe. Ni la fin de la guerre froide, ni la réunification ne l'ont mise à mal. Mais les temps ont changé, les générations de dirigeants politiques se sont succédées. La chancelière Merkel n'avait que 3 ans lors de la signature du traité de Rome en 1957. Elle ne peut éprouver avec l'Europe les liens émotionnels qu'avaient ses prédécesseurs. Dans ce contexte, Il va de soi que les relations franco-allemandes se sont profondément modifiées. Elles se sont relativisées. L'Allemagne développe des relations privilégiées avec le sud et l'est de l'Europe et n'est pas seulement tournée vers le Rhin, comme dans l'Europe des 6, des 9 ou des 12. Il est alors tentant de voir le couple franco-allemand comme un axe parmi d'autres dans l'Europe élargie, d'autant plus que le poids relatif de l'Allemagne et celui de la France ont diminué dans le Parlement, au sein du Conseil, comme à la Commission. Les relations franco-allemandes se sont aussi en quelque sorte inversées. L'Allemagne, qui compte 82 millions d'habitants, est devenue la première puissance en Europe et peut-être la seule à pouvoir prétendre y exercer un leadership. Elle est devenue plus exigeante, car elle est aussi désormais une puissance politique autonome, capable de défendre ses intérêts, d'employer ses moyens militaires, de prendre place au plus haut niveau dans la démocratie, dans la diplomatie mondiale. En même temps, les relations entre les deux puissances rhénanes se sont distanciées, voire banalisées. Sur le plan culturel, la connaissance de la culture et de la langue de l'autre, longtemps considérées comme prioritaires, sont en très net recul. Certes, il existe aujourd'hui un réseau d'une densité inégalée d'institutions binationales, d'associations et de jumelages. Deux exemples parmi d'autres, la chaîne de télévision Arte et le manuel d'histoire franco-allemand édité en 2006 par Nathan en France et par Klett en Allemagne et rédigé par plusieurs dizaines de professeurs. Néanmoins, il subsiste un risque réel de méconnaissance réciproque, voire d'indifférence, dans une Europe où coexistent tant de cultures différentes et dans un monde globalisé où la tentation est grande de regarder loin, beaucoup plus loin que de l'autre côté du Rhin. Dès 2002, le chancelier Schröder déclarait au Bundestag « Désormais, les questions essentielles concernant l'Allemagne se décideront à Berlin et nulle part ailleurs », en 2002, il y a déjà 8 ans. À bien des égards, le couple franco-allemand a paru fragilisé dans les dernières années. De nouveau, les Français sont prompts à évoquer le retour des vieux démons qui hante l'âme allemande, et les Allemands, non moins prompts à dénoncer les prétentions de ce qu'ils appellent la grande nation qui veut voyager en première classe avec un billet de seconde. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le 29 mai 2005 le rejet par les Français du projet de Constitution européenne, préparé pourtant sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Pour mesurer la portée de ce nom français, permettez-moi de citer ce qu'écrivait l'hebdomadaire britannique The Economist aussitôt après, quelques jours après, le 3 juin 2005, sous le titre « L'Europe qui est morte ». Je cite « Ce n'est peut-être pas faire preuve d'un grand tact que de le souligner, mais le rejet par la France de la Constitution européenne est à plusieurs titres un triomphe pour la Grande-Bretagne. Depuis au moins 50 ans, les Britanniques ont eu 2 objectifs principaux en Europe. Le premier était d'entraver la marche vers une union politique de l'Europe. Le second était d'éviter une domination franco-allemande sur la politique européenne. La mort de la Constitution permet de faire d'une pierre 2 coups. Fin de citation. Pour autant, les relations franco-allemandes sont restées indispensables à l'Europe. Une décision prise à la fois par Paris et Berlin n'est sans doute plus suffisante pour susciter une décision de l'Union européenne, mais elle est toujours nécessaire. La France et l'Allemagne restent, de manière privilégiée, les 2 pays qui peuvent entraîner l'ensemble européen. Il n'existe aucune solution de rechange au couple franco-allemand. Cette responsabilité reste le propre des gouvernants françaises et allemands. Les exemples récents n'en manquent pas. la bonne coopération franco-allemande a été décisive en 2007 pour définir le traité simplifié devenu traité de Lisbonne, et qu'auraient été les présidences allemande puis française du Conseil de l'Union européenne en 2007 et 2008 sans le soutien réciproque entre les deux gouvernements face à la crise économique. À quoi cette force d'entraînement du couple franco-allemand tient-elle? Bien sûr, il y a la puissance du symbole historique de la réconciliation, mais la vraie raison est ailleurs. Paradoxalement, la singularité du couple franco-allemand ne résulte pas de la proximité des intérêts ou des identités, mais tout au contraire de leurs différences. À elles deux, la France et l'Allemagne paraissent ainsi résumer et assumer la plus grande partie de la diversité européenne. L'axe franco-allemand n'est pas fondé sur des intérêts a priori convergents, mais sur la capacité de synthèse d'intérêts a priori divergents. Là est toute sa force d'entraînement. Le couple franco-allemand, riche d'une longue habitude des compromis, offre très souvent le chemin le plus court vers la conciliation des intérêts à l'échelle de toute l'Europe. L'efficacité du couple a culminé avec la création de l'euro. Ici même, en juin 2003, lorsqu'il a reçu le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques, le chancelier Kohl a rappelé qu'à son arrivée au pouvoir en 1982, le maître mot était « eurosclérose ». Citation, « qu'un Allemand, disait-il, proposa à ses compatriotes d'abandonner le Deutschmark, la première monnaie stable de l'histoire moderne de l'Allemagne, passait pour de la folie douce, de surcroît ruineuse. » Fin de citation. C'est pourtant cela que fit le chancelier Kohl au terme d'une longue et profonde résolution qui, dès 1984, l'avait conduit à faire un singulier cadeau à la France, à l'époque. Il fallait nommer un nouveau président de la Commission européenne. C'était normalement le tour d'un Allemand. Or, le chancelier Kohl choisit alors de faire élire Jacques Delors. Et l'on comprend encore mieux ce que signifiait alors l'amitié franco-allemande si on se souvient qu'en réponse au don de Kohl, il y eut un contre-don de Mitterrand, lequel exprima personnellement son accord pour que le siège de la Banque centrale européenne fût symboliquement établi à Francfort, juste à côté de celui de la Bundesbank, et cela sans aucune contrepartie. Étant donné, précisa Mitterrand, je cite, « l'énormité du sacrifice qui était demandé à l'Allemagne pour l'abandon du Deutschmark ». Aujourd'hui encore, la plupart des Allemands estiment avoir fait, avec le don du Deutschmark à l'Europe, une immense libéralité consentie par un peuple vertueux à des voisins plus ou moins intempérants. Il faut avoir ce sentiment à l'esprit pour comprendre certaines péripéties de la crise financière et monétaire du printemps dernier entre nos pays. Au départ, face au problème grec, le président Sarkozy veut intervenir vite et fort pour vaincre les spéculateurs en pleine solidarité avec la Grèce. Madame Merkel, au contraire, portée par son opinion publique, veut punir les Grecs, coupables de mensonges et de laxisme. La crise atteint son paroxysme le 7 mai 2010, le jour où l'euro a failli mourir, selon le titre de l'éditorial d'un grand journal du soir. Les spéculations contre les dettes grecques, espagnoles et portugaises avaient en effet entraîné une perte de confiance des marchés financiers. L'Europe était au bord de l'abîme, mais elle n'a pas sombré. Le 9 mai, 60 ans jour pour jour après la déclaration Schuman, les gouvernements ont fait face en créant un fonds de stabilisation de 750 milliards d'euros. La France a joué un rôle moteur, mais rien ne pouvait se faire sans l'Allemagne. Les deux puissances, à elles seules, représentent la moitié des ressources du fonds de stabilité. Ce jour-là, en un acte historique, Paris et Berlin ont repris en main ensemble la stabilité monétaire et financière de l'Europe. la crise grecque aura remis en valeur l'orthodoxie économique à l'allemande, principe qui inspire désormais les conditions imposées à la Grèce. Mais elle aura aussi fait évoluer l'Allemagne sur un projet porté depuis longtemps par la France, celui du gouvernement économique en Europe, même si le débat continue entre le gouvernement économique de la zone euro à la française, d'une part, et d'autre part, la gouvernance de l'Union européenne à l'allemande. Le 1er juin, le président de la BCE, notre confrère Jean-Claude Trichet, le plus récent élu de notre Académie, déclarait « Nous sommes une fédération monétaire. Nous avons besoin d'avoir l'équivalent d'une fédération budgétaire en termes de contrôle et de surveillance de l'application des politiques en matière de finances publiques. » Je ne peux qu'applaudir à cet appel. J'ajouterai que c'est à la France et à l'Allemagne de porter ensemble ce projet de fédération budgétaire, comme c'est à la France et à l'Allemagne de proposer ensemble une vision économique et sociale qui ne soit pas le libéralisme anglo-saxon, mais un renouveau du modèle de type rhénan. Un sondage récent révèle d'ailleurs que 70% des Allemands ainsi que 79% des Français sont convaincus que le moteur franco-allemand est indispensable à l'Union européenne. Madame, messieurs, mes chers confrères, dans l'un des derniers chapitres de son traité de l'Allemagne, Madame de Staël comparait il y a 2 siècles l'esprit français et l'esprit allemand. À propos de la littérature, elle disait des Allemands et des Français qu'ils lui rappelaient, je cite, « cette fable de La Fontaine où la cigogne ne peut manger dans le plat ni le retard boire dans la bouteille ». Sans doute cette fable n'a-t-elle pas perdu sa pertinence. Pourtant, vous me permettrez d'être moins pessimiste que Madame de Staël. Je ne mets pas en doute les différences entre Français et Allemands, car si l'on veut unir, ne faut-il pas d'abord distinguer. Je ne veux pas non plus faire croire naïvement qu'il a existé dans le passé un âge d'or des relations franco-allemandes, un état de grâce mythique, un bonheur conjugal perdu qu'il faudrait retrouver. Si j'ai souhaité faire entrer aujourd'hui le couple franco-allemand sous notre coupole, c'est pour de plus simples et plus fortes raisons. D'abord, pour que la France et l'Allemagne assument la singularité, et j'ose le mot, l'exemplarité nouvelle de leur double destin. Ensuite, pour qu'elles n'oublient pas à quel point leur réconciliation d'hier et leur alliance d'aujourd'hui peuvent être érigées en modèle. Et enfin, pour que ces deux pays siègent parmi les nations à l'ombre du grand arbre, de ce grand arbre qui, dans notre nouveau siècle, portera le nom d'Europe.
Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Nous aurons besoin de vous entendre encore souvent. Et je pense que vous ne serez pas contre. Eh bien, nous sommes tous de cet avis, je crois. La séance est levée.
Vous venez d'entendre les discours de la séance de rentrée 2010 de l'Académie des sciences morales et politiques. Signalons que vous trouverez l'intégralité de ce discours, celui de Michel Albert, sur le site de l'Académie www.asmp.fr.